Intermondial.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
5, 2, 1.
Et bienvenue dans leur CV, mesdames et messieurs, sous la chaleur étouffante, mais quelle qu'elle soit, très agréable à Québec malgré tout. Oui, vous êtes dans leur CV. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. C'est sous le soleil et 27 degrés qu'on commence cette émission-là aujourd'hui. Ça pourrait monter jusqu'à 30 au courant de la journée. Un peu comme les derniers jours de chaleur étouffante qu'on a eu. J'espère que vous êtes au frais. If you like pina colada. On sent tranquillement l'été s'installer, les gens partir en vacances. Je trouvais que sur les réseaux routiers, ça paraissait un peu là, quand on se met à remarquer qu'est-ce qu'on a mis dans la voiture, la tente roulotte qu'on part tout simplement en VR, la moto qui est sortie. On voit des voitures aussi pleines de bagages ces temps-ci. Puis, en fait, c'est sûr qu'avec cette semaine-ci où la plupart sont en congé pour la Saint-Jean qui s'en vient à grands pas, ça se répercute sur nos réseaux routiers puis dans nos magasins, justement, de plein air. Vous allez faire un petit tour chez Serre, entre autres, peut-être, parce que je voyais le stationnement plein. Je pense que beaucoup profitent de ces fériés-là pour les coller avec leur journée de congé pour se faire une semaine beaucoup plus longue. Hein? Congé, de la Saint-Jean, mais aussi la fête du Canada dans tout ça. Est-ce que vous êtes en congé à long terme dans les prochains jours? C'est la question que je vous pose au 88-971-1021. Sinon, à quel moment vous avez pris vos congés cet été? J'aimerais vraiment, vraiment savoir parce que on en parlait avec les collègues puis beaucoup ont tenté de ne pas trop en prendre cet été, se faire plutôt des longs week-ends, puis pour la suite des choses, bien, peut-être y aller plus en septembre en vacances pour profiter justement des étés à Québec et au Québec, qui sont de plus en plus agréables côté température, côté soleil. C'est sûr qu'on n'a pas une période estivale qui est très longue, donc de partir peut-être à l'extérieur, c'est moins intéressant pour le moment, là. Mais il y a beaucoup de gens, justement, qui vont faire peut-être des longs week-ends, qui vont aller au camping, qui vont ci et ça, mais qui ne vont pas nécessairement partir à l'extérieur en voyage cet été, qui vont attendre plus tard cette année. Salut à tout le monde, salut à tout le monde sur Twitch aussi. Il y a des bons matins qui commencent à entrer en grand nombre. Twitch, c'est des caméras en studio, on les a bien installées, Max et moi, avant de commencer l'émission. Venez avec nous, twitch.tv/BLVD/FM. Écrivez juste BLVD/FM sur la barre de recherche de Twitch, puis vous allez nous voir ici en studio. Sinon, 88-971-1021, vous êtes où, vous êtes qui, vous faites quoi? Hein? C'est ça la question aujourd'hui de présentiel à texto. Tiens, parce que vous êtes un peu dans mon studio malgré tout, là, parce que je fais cette émission-là toute seule avec vous. Hey, c'est confirmé, Nathan Meyer et moi, on va faire une partie 2 à ce qu'on vous avait présenté la semaine passée, le genre de spécial Sainte-Nitouche. Il y en avait un aussi avec Thomas Levac vendredi dernier. Les deux sont dans la possibilité d'être repris directement sur le site de blvd.fm. Je me l'ai fait beaucoup demander, en fait, puis même encore hier, je salue M. Comtois qui m'a écrit pour me dire « Hey, je peux-tu les reprendre? » Oui, c'est possible. On les a mis en ligne, tout simplement dans la section « Leur CV ». Vous allez voir. Les podcasts y sont. Puis Nathan et moi, hier, on a jasé, on a fait une rencontre au sommet, comme on dit. Puis oui, on va faire une partie 2. C'est juste qu'on est deux grands loquaces. Hein. Donc quand on commence, des fois, nos réponses sont tellement longues qu'on n'a pas le temps d'en faire plusieurs des questions. Puis on en riait. En fait, on avait fait deux questions, je pense, sur 10. Donc on va se reprendre, lui et moi, prochainement, puis on va vous offrir ça. Ça va peut-être être bon à écouter, justement, dans vos déplacements. Comment ça se passe, sinon, au quotidien, dans votre vie, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est aussi intense que l'actualité ces jours-ci? C'est rarement vu le genre d'article qui sort en ce 20 juin. Pour avoir fait de l'actualité depuis plusieurs années maintenant, là, je trouve vraiment qu'on est dans une phase très, très garnie. D'habitude, ça me nuise un peu. Là, c'est un petit peu moins plein d'actualités comme on a en ce moment. Mais là, ça fuse de toutes parts, là, que ça part justement des comptes rendus de l'année aux sociétés d'État qui cachent des salaires des cadres. Là, on parle de 5 sociétés d'État qui sont pas vraiment transparents sur les salaires. Autant à la SAQ, à la SQDC, Hydro-Québec, Loto-Québec. On parle de plein de faits divers. Encore des incendies. On revient, c'est sûr, sur le tramway de Québec, la CDPQ Infra, qui va poser désormais des conditions dans ce projet-là. Ça revient dans l'actualité. On va en parler un petit peu plus tard. Le troisième lien aussi, de retour aujourd'hui avec la grande photo du visage de François Legault. La décision de Legault était prise depuis des mois. C'est ce qu'on lit et ce qu'on titre du côté de Radio-Canada. Donc, le premier ministre et son chef de cabinet qui avaient décidé de relancer le projet dès la défaite dans Jean Talon. On s'en doutait. On avait entendu parler dans leur point de presse là, comme quoi on était peut-être de retour dans cette idée-là de faire un troisième lien. Donc, dès le soir de la défaite du parti de la CAQ dans la circonscription de Jean Talon ici, ça, c'est le 2 octobre dernier, l'idée de François Legault était faite. On allait relancer le projet de troisième lien Québec-Lévis. On avait fait un discours devant des bénévoles. On avait remercié aussi la candidate qui avait été battue dans Jean Talon. Puis cette débâcle-là pour le parti, on parle d'une débâcle de leur côté, a fait en sorte qu'on a multiplié les appels pour justement relancer le projet. Oui, c'est quelque chose qui avait fait un peu du rififi au sein même de la CAQ. Là. Rappelez-vous, les ministres entre eux étaient divisés, étaient déçus. Puis on avait demandé à ces ministres-là, divisés et déçus, de se rallier au sein de la CAQ puis que tout le monde dise la même chose. Fait qu'on a vu des gens aussi un petit peu moins présents dans les enjeux politiques. Là. Puis finalement, ben on revient avec le projet, mesdames et messieurs, et on revient aussi avec le projet de tramway. Salut à Carl, entre autres, qui est sur la route, camionneur qui descend de Moncton, direction Saguenay en ce moment. Ça reste que c'est une belle température pour faire de la route quand t'as l'air climatisé dans la voiture. Sinon, ça gosse. Quelqu'un qui dit « Je vous interdis de prendre des vacances en même temps que moi. Moi, c'est en septembre et c'est mon secret depuis plusieurs années. » Salut à Christian. Maryse qui dit qu'elle part en vacances là. Et elle a une autre semaine de vacances à la fin. Ou on a Lisette, notre retraitée qui est toujours là chaque jour, qui dit qu'elle, ben est en vacances, mais qui fait vraiment trop chaud, puis qui est contente d'avoir sa climatisation. Elle est toujours présente pour leur CV. Des gens aussi qui disent bonjour, good morning. Ça, c'est Jean-Pierre. Salut à Mathieu, à Hugo, à Fred. Je sais que Steph est là aussi. Je sais que Pat est là. Cloverish, bien, ça, c'est leur pseudo là, sur Twitch. Venez nous rejoindre. On parle émission. C'est parti maintenant avec les colocs. Mauvais caractère. Y en a-tu qui sont dans cette gang-là aujourd'hui?
J'ai mauvais caractère.
Leur CV avec Pascal CV.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo surfing USA.
On est vraiment là-dedans là, aujourd'hui. Canicule, encore une fois, si vous avez des proches qui n'ont pas d'air climatisé, qui sont dans des endroits où il faut peut-être s'assurer que tout va bien, qui s'hydratent aussi, lâchez un petit coup de fil, soyez une bonne personne. Soyez cette bonne personne-là. Oui, on s'énerve un peu aujourd'hui, jeudi 20 juin. On est à l'aube des vacances. Tout le monde m'écrit un peu ce qu'ils s'en vont faire. Rachid, entre autres, part lundi pour 2 mois au Maroc. Incroyable, voilà, en profiter en famille. Ça, là, Rachid, on veut des nouvelles de comment ça se passe. J'ai des amis qui sont en ce moment qui trippent, super culture. Ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Il y a aussi des gens qui m'ont écrit comme quoi ils partaient au camping tout l'été, qui s'en vont faire du télétravail de là-bas. Puis finalement, le camping est à 45 minutes, là. Mais eux, ils décident de changer d'air. Puis quand ils reviennent à la maison pendant l'été, c'est plutôt la maison qui devient le chalet. Vous comprenez un peu? Quelqu'un d'autre, Jay, qui nous dit 2 mois de vacances à partir du 30 juin pour être avec mon petit bonhomme de 3 mois et ma blonde, un nouveau papa qui s'en va vivre des moments qui seront assez exceptionnels. Mesdames et messieurs, il y a de la fraude, puis pas à peu près. Il y en a dans des fraudes monétaires que vous connaissez, bien sûr. Mais il y a une nouvelle fraude qui est apparue sur les réseaux de rencontres. Et je lisais ce matin que sur les applications de rencontres, il y a des hommes maintenant qui font semblant d'être homosexuels pour attirer des femmes. Je vous explique, parce que pour l'instant, c'est beaucoup à prendre, je comprends. Et surtout, on se demande comment ça fonctionne. Un peu plus corsé que ce qu'on a juste évoqué comme titre, là. Mais il y a plusieurs hommes qui ont compris que l'algorithme, entre autres de Tinder, était particulier. Ça, ça veut dire que c'est une stratégie qui est assez audacieuse, qui a été montée là, comme modèle d'affaires pour les applications de rencontres. Et plus on te like, donc plus on aime ton profil, plus tu t'élèves dans le score. Donc, il y a plus d'utilisateurs qui vont te voir et tout. Et ça mesure, en fait, cette façon de faire-là avec l'intelligence artificielle, algorithme de Tinder et des autres applications de rencontres. Bien, ça mesure l'attractivité, en fait, de ton compte. Puis ça fait en sorte que tu vas plus se garnir, tu vas mettre des meilleures photos, tu vas peut-être un petit peu plus développer en écrivant des choses qui peuvent intéresser les gens, au moins qui vont faire rire et autres. Et l'application, elle, se charge de faire, comme on dit en bon anglais, matcher les profils qui ont le même score. Si tu as un score plus haut, tu vas aller avec les personnes qui ont un score plus haut, puis si tu as un score plus bas, tu vas aller avec les personnes qui ont un score plus bas. C'est malheureusement fait comme ça, OK? Hein? Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et il y a aussi du marketing. Et pour certains qui ont un petit peu plus de difficultés, on s'est rendu compte, du côté des applications, qui a eu un dilemme qui a fait en sorte qu'ils se sont rendus compte que l'algorithme était un petit peu... ils s'étaient gâchés un peu de leur côté. Et ils ont décidé de switcher, hein, de faire un détour complet vers leur profil en le mettant attiré aux hommes. Donc, un homme attiré aux hommes quand l'homme est hétérosexuel pour que, aux yeux de l'algorithme, il devienne attractif. Parce que peut-être que du côté de l'homosexualité, la portion homosexuelle de l'application, bien, la personne va plus pogner ou autre. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait semblant, puis ça en est rendu qu'on en fait des articles, ça en est rendu que ça a été un problème majeur sur les applications, parce qu'il y en a plein qui se sont fait frauder amoureusement ou socialement parlant, relationnellement parlant, avec de fausses personnes qui se disaient attirées par peut-être le sexe, le même sexe, puis c'était pas le cas, justement pour remonter leur profil, remonter dans les scores et ensuite revenir dans la portion hétérosexuelle. Hey, comme quoi, là, il y a des moyens pas mal manipulateurs d'obtenir des likes, de retirer peut-être un petit peu de popularité sur les applications juste pour remonter la cote, mais qu'on se le dise, là, elle va redescendre. Si elle était redescendue de toute manière initialement, je ne sais pas pourquoi les gens font ça, mais quand on en parlait avec Nathan, en plus, c'est sur les relations interpersonnelles là, dans notre podcast de la semaine passée, là, à quoi ça sert de mentir? Moi, on ne saisissait pas l'avantage de mentir, de modifier ses photos, de ne pas écrire les vraies choses ou encore de ne pas être soi-même dans les conversations parce que ça va ressortir à un moment ou à un autre. À moins que toi, tu sois capable de vivre avec toi-même en ayant menti à quelqu'un pour peut-être aller chercher un plaisir charnel en arrière de ça, puis après ça, utiliser le bon terme anglophone, ghoster la personne, ne plus jamais lui parler, puis repartir avec ton petit bagage de chemin en ayant socialement, et non relationnellement dans ce cas-ci, mais socialement arnaqué quelqu'un, à quoi ça sert? Mon Dieu, que ça semblait plus simple dans le temps où tout le monde sortait, se rencontrait en personne, puis avait du plaisir autrement qu'en établissant des stratégies marketing sur des applications de rencontres comme ça, puis en flouant des gens sur leur profil sexuel. On est rendu là. On est rendu à avoir des articles dans le monde pour dire, bien, soyez certains de ce que vous rencontrez sur les applications de rencontres parce que certains font simplement se servir de vous. Et là là, la société. Vous, avez-vous déjà été malhonnête? Si oui, dans quoi?
Durant la vente et Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard
102.
Ouais, 27 degrés. Si vous avez chaud à l'extérieur, ben c'est ça que vous ressentez, même que ça monte à 28 tranquillement, pas vite, pour atteindre 30 au courant de la journée, puis ça va se faire assez vite. Avertissement de chaleur. Commencez-vous à étouffer avec les derniers jours comme ça de canicule, c'est le cas de le dire. Là. On est dans la grande chaleur, on est moins habitué que dans le sud peut-être. Voilà pourquoi on en parle un petit peu plus. Puis c'est probablement pour les gens qui sont un petit peu plus vulnérables à ça qu'on en parle. On donne des trucs, 6 à 8 verres d'eau par jour. Même si vous n'avez pas soif, on y va, on en prend. Si vous pouvez passer au moins 2 heures à la climatisation dans un endroit frais, c'est important. Et pour tous ceux qui font du télétravail, peut-être les deux pieds dans la piscine pendant que vous travaillez, justement. Mais on est-tu chanceux? La belle saison estivale qui est entamée. On sera l'été dans quelques heures maintenant. Ça transparaît sur les visages de tous et chacun, mais soyez prudents. Beaucoup de choses quand même dans l'actualité, malgré le fait qu'on se dirige vers une période estivale. Puis hier, ça se sentait, là, les terrasses étaient pleines. Nous, on est allé fêter les 3 ans du Beau Cuisine d'Asie, des collègues et moi. C'est un resto qu'on aime beaucoup, auquel on adore aller faire nos petites soirées là-bas. Puis ils fêtaient leurs 3 ans, ça c'est à côté du Capitole, ou la place Diouville. Puis ça sentait le 5 à 7, on était mercredi. Les gens avaient le goût d'extensionner un petit peu plus la journée, de profiter de tout ça à l'extérieur. Même s'ils ont eu chaud toute la journée, bien, ils se rassemblaient sur des terrasses. Il y a quelque chose qui, j'espère, va rester dans la ville de Québec, mais bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça s'était amenuisé un peu, le fait de triper à l'extérieur puis de se rassembler dans des groupes et autres. Mais là, ça commence à remonter un peu, puis ça me fait bien plaisir de voir que vous en profitez comme ça. Ça fait du bien de s'arrêter en semaine, des fois, même si c'est pas un jeudi, un vendredi ou un samedi. Mais bon, oui, l'actualité est très garnie pour cette période de temps-là. Je vous en parlais il y a quelques minutes, mais coup de théâtre dans le dossier du tramway de Québec. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, Infra, là, a posé maintenant des conditions pour que le projet se réalise quand on parle de tramway. On n'en avait pas jusqu'à maintenant. En fait, on faisait juste déposer une recommandation positive par rapport à ce projet-là. Mais là, on a dit qu'on voulait conclure des ententes sur les enjeux de gouvernance et le financement du méga-projet. Donc, il amorce une discussion sur le plan cité. Au cours des prochaines semaines, il va y avoir des négociations qui vont avoir lieu. Et à la suite de ces négociations-là, il va y avoir des conditions qui devront être remplies pour que le projet se réalise. Alors ça veut dire qu'on est encore dans l'ambiguïté un petit peu par rapport au projet, mais surtout une surveillance. Donc, les parties qui vont devoir en arriver à des ententes pour avoir une gouvernance et un financement qui soit convenable. Et c'est ce que fait savoir la CDPQ Infra hier dans une déclaration qui a été acheminée au Journal de Québec. Il n'y a pas vraiment d'autres précisions qui ont été fournies là, à la suite de tout ça. Là. On a plutôt donné les informations que je viens de vous donner, mais c'est un feu vert qui est partiel finalement. Il n'est pas complet, mais c'est un projet, vous savez, en 3 phases. Et on a insisté pour dire que le plan global là, que ça représente, ça doit être cohérent pour améliorer la mobilité dans la grande région de la capitale nationale. Mais le gouvernement Legault a donné son feu vert que pour une partie de la première phase. Donc, au provincial, on est juste sur la ligne de tramway de 19 km là, qui relie les secteurs Legendre et Charlebourg. Puis pour les autres portions de la phase 1, soit le service rapide par bus à Québec et à Lévis, en plus de bus fréquents, ça n'a pas été formellement autorisé par le gouvernement. Et même chose pour la phase 2, ça c'est l'extension du tramway à d'Estimonville et la portion SRB sur la ligne des Rivières à Lévis. Puis aussi la phase 3, bien sûr, si on n'a pas encore accepté 1 partiellement, 2, la 3 n'est pas acceptée. Mais ça, c'est celle de l'antenne du tramway à Le Bourgneuf et à Lévis en tunnel. Donc, on va avoir des réunions. On est à quelques heures de cette réunion-là. On a sûrement commencé, en fait, au courant de l'heure CV. Là. Et il y a un lancement du tramway qui sera fait dans sa nouvelle mouture suite aux recommandations et aux ententes qui vont être passées. Donc, on est encore en train de mettre les deux mains dans le transport collectif à Québec. C'était pas parce qu'on a présenté un rapport que c'était terminé. Troisième lien aussi est revenu dans l'actualité aujourd'hui. On dit que la décision de Legault était prise depuis des mois, soit en octobre dernier, le soir de la défaite de la CAQ dans la circonscription du Jean Talon à l'élection partielle quand Joël Boutin a quitté, là, ancienne candidate de la CAQ. Donc, le 2 octobre dernier, l'idée de François Legault était faite. Nous allions relancer le projet de troisième lien Québec-Lévis qui avait tant divisé son propre parti quand on l'avait abandonné lors d'une conférence de presse, on peut dire historique, de Geneviève Guilbeault avec tous ses papiers sur la table il y a quelques mois. Maintenant. La SAQ, la SQDC, Investissement Québec, Hydro-Québec, Loto-Québec, connaissez-vous les salaires des cadres de ces sociétés d'État-là? Eh bien, non, et c'est ce qui est dépeint dans le journal aujourd'hui. 5 sociétés d'État qui cachent les salaires des cadres. Mais vous les payez avec vos taxes, vos impôts. Ils vous appartiennent en partie, ces sociétés d'État du Québec-là. Et on a décidé de cacher les salaires des cadres. Puis on a fait des demandes d'accès à l'information du côté du bureau d'enquête de Québécois. On a tenté de le savoir. On voulait des chiffres. Mais on s'est contenté d'envoyer les salaires des plus hauts dirigeants, dont les salaires qui ont déjà été publiés en majorité dans les rapports annuels des sociétés d'État, mais on n'a pas ceux des cadres, là. Donc, réponse négative pour la Société des alcools du Québec, la Société québécoise du cannabis, l'Auto-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec qui ont répondu par la négative, puis Hydro-Québec avait déjà répondu par la négative. Par exemple, le PDG de... la Caisse de dépôt et de placement, Charles Lémont, lui avait empoché 4,4 millions de dollars en 2023 et Jacques Farty de la SAQ a gagné 528 215 dollars. Les salaires des autres cadres, ça c'est caché par exemple. Fait que pourquoi on a caché certains et on n'a pas caché d'autres? C'est une question qu'on peut se poser. On vient toujours un peu sceptique quant à la réponse, puis ça attire encore plus notre intérêt à ce moment-là. Est-ce que d'autres millionnaires, entre autres à la Caisse de dépôt et de placement, parce que je viens de vous dire un salaire quand même qui est plus qu'élevé, là, et la Caisse de dépôt et de placement du Québec a accepté de révéler le salaire d'une minime partie de ses cadres suite à la demande d'accès à l'information. Puis là-dedans, il y a quatre millionnaires. Les mieux payés. Marc Cormier, premier vice-président et chef du revenu fixe, rémunération de 1,7 million de dollars. Trois autres VP, Marie Capol, Michel Lalande et David Latour, plus d'un million de dollars en 2023. Et tous les autres ont empoché un salaire de plus de 700 000 dollars avec rémunération variable. À vos claviers, mesdames et messieurs, 88-971-101 ou encore sur Twitch. Et vous, est-ce que vous faites partie des 65 000 personnes qui n'ont pas reçu leurs 400 à 600 $ pour la période de déclaration d'impôt de 2021, puis vous attendez encore le crédit d'impôt? Si c'est votre cas, vous devez faire ceci d'ici le 30 juin. Donc ça, c'est le fameux chèque là, qui est envoyé de 400 à 600 $ que le gouvernement Legault a accordé à chaque contribuable admissible peu après les élections de 2022 pour compenser la forte hausse du coût de la vie. Vous savez ce que j'en pense. Je trouve ça extrêmement négatif, cet envoi-là. Mais si tout le monde y a eu droit puis que vous faites partie des 65 000 contribuables qui n'ont pas réclamé ça, ça, c'est un peu plus de la moitié là, des personnes qui ont tout simplement fait abstraction de faire leur déclaration d'impôt d'une année à une autre, là. Souvent parce que bien, ces personnes-là vivent dans la pauvreté ou ils n'ont pas les capacités de le faire elles-mêmes. Là. Mais pour ceux qui peuvent, l'échéance avait été fixée et pour avoir droit à ce crédit-là, sachez que vous avez jusqu'à la fin juin pour le faire parce qu'après ça, c'est terminé. Si vous n'avez pas vu la couleur de cet argent-là, vous ne la verrez pas de toute manière. Donc, il faut absolument produire votre déclaration de revenus 2021 pour avoir le chèque, la déposer à Revenu Québec, en ligne ou dans les bureaux, comme d'habitude. Et Revenu Québec va effectuer les calculs du montant auquel vous avez le droit en fonction du revenu net de 2021. Et si tu n'as pas de revenu à déclarer en 2021, tu vas devoir produire ta déclaration pareil. Puis si vous faites une déclaration d'impôt de 2021, mais après juin 2023, vous devez contacter Revenu Québec pour toute urgence pour lui signaler la situation. Voilà. Sinon, super triste, puis ça revient toujours dans l'actualité dans cette période estivale-là, mais il y a une femme dans un état critique. Il y a eu un incident du côté du village Vacances Valcartier. Donc, une femme d'une cinquantaine d'années qui a subi un incident de nature médicale. Ça s'est fait hier au village Vacances Valcartier, là. Puis les ambulanciers ont reçu un appel à 15 heures. On disait qu'il y a eu manœuvres de réanimation qui ont été effectuées. Transport de la dame vers un centre hospitalier. Et la Sûreté du Québec a été dépêchée sur les lieux, mais c'est ça qui s'est passé du côté du village Vacances Valcartier hier après-midi. Il y a de plus en plus de patients qui quittent l'urgence sans avoir consulté qui que ce soit. Donc, pas de prise en charge. Ils sont tannés, c'est trop long. Je pense que c'est arrivé à la majorité des gens à l'écoute en ce moment. C'est mon hypothèse. Mais beaucoup quittent les urgences sans avoir été pris en charge. Ça, c'est en augmentation au Québec. Et c'est des résultats qui ont été publiés après l'étude de l'Institut économique de Montréal qui a été publiée aujourd'hui. Donc, 2023-2024, sur une période d'environ 11 mois, on dit qu'il y a 3,2 millions de patients qui sont allés aux urgences partout au Québec et que 11,5 % d'entre eux, soit, si je vous dis un chiffre, là, c'est 376 460 personnes qui sont reparties avant qu'on les prenne en charge. En comparaison avec 2018-2019, là, c'est un peu plus de 10 %, donc c'est en augmentation. Une personne sur deux attend plus de 5 heures aux urgences au Québec. Donc, ça se peut que ce soit normal qu'il y en ait une couple qui parte. Là. Si tu n'as pas mangé, si tu ne sens pas bien, tu es assis sur un banc qui est droit, qui est froid, mais ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que peut-être qu'il y a des gens qui s'en vont qui avaient vraiment à être pris en charge. Quand tu es rendu à l'urgence, dans la majorité des cas, tu as besoin d'être pris en charge. Et ce qu'on dit, c'est que pour les cas moins urgents, là, un P4 ou un P5, que ça s'appelle, il y a plus de 70% des patients qui ont décidé de s'en aller sans avoir été traités. Puis pour ces cas non urgents-là, elles vont tellement attendre longtemps que ça se peut qu'elles développent quelque chose malgré tout. Et on soulève qu'un patient qui quitte sans avoir été soigné là, a des risques que son cas s'aggrave, bien sûr, mais qu'il revienne aux urgences en étant un cas plus complexe par la suite. Puis ça, c'est beaucoup signalé par les experts en santé. Donc, on espère que ça avance avec la réforme en santé, là, cette façon de faire-là, qu'on soit capable de traiter plus rapidement les gens ou encore qu'on les oriente vers d'autres centres de santé. C'est l'urgence, c'est pas leur place, mais ne négligez pas votre état de santé. Si ça ne vous tente pas d'attendre à l'hôpital, c'est une chose, mais peut-être trouver la ressource alternative à l'urgence pour aller vous faire soigner. Hein. Faut pas attendre que ce soit pire, finalement. Je termine les nouvelles d'aujourd'hui avec un texte très intéressant dans Le Devoir ce matin. On parle des hommes dans un angle, une situation dont on parle pas souvent, mais qui existe. Puis à chaque fois qu'on parle de violence conjugale, on rappelle qu'il y a des hommes qui le vivent aussi parce que, bon, initialement, avec le temps, avec les statistiques, on se rend compte qu'il y a plus de femmes soit qui lèvent la main pour dire qu'elles en sont victimes et ou qu'il y a plus de cas. Mais là, il y a des organismes pour hommes agressés sexuellement, qui se disent débordés. Donc, dans une autre facette de cette violence-là faite aux hommes, celle de l'agression sexuelle ressort beaucoup ces années-ci. Les hommes sont plus nombreux maintenant à demander de l'aide, donc à avoir le courage de dire ce qui leur est arrivé, demander de l'aide et d'avoir des soins en conséquence. On dit que les hommes qui ont subi une agression sexuelle sont de plus en plus nombreux à demander cette aide-là au Québec. Ils ne savent pas toujours où aller, mais on a consulté du côté du Devoir trois organismes qui se spécialisent là-dedans, uniquement dans le soutien à cette clientèle-là. Et le nombre de demandes a bondi, attention, attachez votre sucre, là, de 70%. De 2019 à 2020, puis de 2023 à 2024, ça a bondi de 70%. La parole des victimes, on dit, s'est libérée parce qu'il y a eu des vagues de dénonciations médiatiques et ça a aidé énormément d'hommes à briser le silence, à appeler à l'aide, puis à peut-être changer leur vie finalement en ayant des services adaptés. Là, à l'heure actuelle, beaucoup d'hommes contactent le centre CRIFAS. Ça, c'est un centre de ressources et d'intervention pour des hommes qui sont abusés sexuellement dans leur enfance. Et malheureusement, puisque tout positif, des fois, amène sa branche négative là, par cette, entre parenthèses, popularité-là, cette hausse de demande-là. On n'est pas capable d'offrir un service très, très rapide tout le temps. Donc, on doit patienter en moyenne 6 mois avant de recevoir des services. Et ça, on se désole de la situation parce que quand une victime a commencé à parler, à avoir le courage de faire, le fait de tout remballer, d'attendre 6 mois, ça va peut-être faire en sorte qu'elle remballe tout ça vraiment serré, puis qu'elle saute son tour finalement ou qu'elle revienne dans 2 ou 3 ans, mais qu'entre-temps, elle vive encore beaucoup de détresse quant à ce qu'elle a vécu. Et ça, on le déplore parce qu'on dit, quand tu as le courage d'aller cogner à différentes portes pour obtenir du soutien, que ce soit dans des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, dans des centres d'aide de victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales, ou peu importe, pour hommes en difficulté, et qu'on n'est pas capable de te prendre en charge tout de suite, bien, ça fait en sorte que peut-être que ça va faire en sorte que tu retournes dans une détresse qui est importante et que ça mine ta vie. C'est important quand même de dire que 474 demandes d'aide en 2023-2024 ont été faites par rapport à 279 seulement en 2019-2020. C'est encore très peu malgré tout. En même temps, là, il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. Il faut que les gens soient conscients, réalisent, soient extrêmement, empathiques envers eux-mêmes. Et ait le courage aussi de demander de l'aide. Mais on voit vraiment que les chiffres là, sont en montée. Ça reste un bon signe dans le négatif parce que ça veut dire que dans les dernières années, on a ouvert des portes, on a permis à ces victimes-là d'infractions sexuelles d'aller porter plainte et d'aller chercher de l'aide. De 2016 à 2022, là, on dit que les victimes d'infractions sexuelles qui sont allées à la police ont grimpé de 97 % chez les femmes et de 68 % chez les hommes. Bravo, vraiment bravo de briser le tabou. C'est tout à votre honneur. Puis aller cogner à une autre porte ou demander de l'aide peut-être du côté de proches si jamais il va falloir que vous attendiez pendant quelques mois pour justement pas perdre ce canal-là, cette connexion-là que vous avez avec vous-même et cette envie-là d'aller peut-être recoudre ce qu'il y a à recoudre, penser ce qu'il y a à penser. Caravane, Kaléidoscope à Boulevard 102.
Avec Pascal CV.
I was lying on the grass a Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. My mind was thugged all laced, but it's all twisted wrong and neat. Uncomfortable three feet deep.
À chaque retour de pause, on est dans une chanson soleil. Un choix d'auditeur pour celle-ci, Still My Sunshine. Parce qu'à 29 degrés à l'extérieur, ça prend une piscine, ça prend un petit drink froid. Pas nécessairement avec de l'alcool, là, mais quelque chose pour nous rafraîchir, ça va monter jusqu'à 30 degrés. En jeudi 20 juin, 40 % de possibilité d'averse sur le territoire. Et ce soir et cette nuit, ça va enfin se rafraîchir. Pour la première fois de la semaine, ce sera 16 degrés. Ça va être le moment d'ouvrir les fenêtres, là. Faire rentrer un peu d'air frais. Vous êtes dans l'heure CV. On termine notre semaine, en fait, de cette saison-ci, là, au courant des prochaines journées. En fait, jusqu'à demain, on va être ensemble. Puis après ça, c'est la programmation estivale. Yannick Marceau va partir en vacances. Si vous voulez pas vous ennuyer de lui, il va falloir en profiter ce midi et demain aussi, parce qu'après ça, ben, c'est son tour de prendre quelques jours de congé bien mérité. Même chose pour Thomas Gauthier. Puis on mélange ensuite la programmation. On va se retrouver dans chacune des plages horaires là, estivales. Bien sûr, en équipe, mais aussi vous allez entendre des gens que vous n'entendez pas le matin des fois, vous allez entendre des gens que vous n'entendez pas l'après-midi parfois. On va jouer comme ça dans la programmation, on va s'amuser tout le monde ensemble. C'est vraiment le fun, cette période estivale-là. Puis on va revenir là, dans les équipes pour les saisons là, de radio bien stratégiques, bien forgées comme d'habitude pour août prochain. Du côté des gares, ça, c'est rare qu'on voit ça du côté de la Grande-Bretagne là, et de tout ce qui est britannique, en fait, là. Mais il y a eu des caméras de surveillance qui ont été installées. Bien sûr, dans des gares britanniques, on peut savoir, il y a des caméras de surveillance, il faut voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de transports, des gens potentiellement louches qui pourraient y être. Mais on a utilisé l'intelligence artificielle pour aller analyser les émotions des passagers. Et ça, c'est nouveau. Donc, des caméras de surveillance qu'on dit booster à l'intelligence artificielle qui analyse les émotions des passants. C'est au Royaume-Uni qu'on a vu ce genre de technologie-là être installée. Donc, des visages de milliers de passagers qui ont été scannés par un logiciel qui a été produit par Amazon. Et ça, c'est basé sur l'intelligence artificielle, bien sûr. Et on a parlé dans le magazine américain Wired. Et c'est un système de reconnaissance faciale comme... Tu sais, j'en ai déjà parlé, là, entre autres en Chine. Ils l'utilisent pour tout ce qui est... hiérarchie sociale, de bon comportement. Il y a des super documentaires là-dessus qui ont été faits. On pourra en reparler un moment. Mais là, c'est rare qu'on voit ce genre de truc-là dans des sociétés qu'on va dire un petit peu plus aux valeurs occidentales, disons-le comme ça. Mais reconnaissance faciale qui a été utilisée pour prédire l'âge de ceux qui circulaient, le genre, les potentielles émotions de simples quidam là, qui marchent là, comme ça, qui voulaient juste prendre un train. Donc, c'est des raisons qui sont évoquées, en fait, qui sont particulières. Juste développer la technologie, être capable d'avoir cette technologie-là et la tester, c'est ce qu'on a évoqué comme raison multiple, en fait, du pourquoi cette vidéosurveillance-là, boostée, comme on dit, a pris le dessus dans 8 gares britanniques au cours des 2 dernières années. Ça a été supervisé par le Network Rail, c'est une entreprise privée qui gère le réseau ferroviaire outre-Manche. Donc, de Londres à Waterloo, à Manchester, Piccadilly, tout ça était présent. Et à travers les caméras, on peut apparemment là, alerter le personnel s'il y a des cas de problèmes liés à la sécurité et potentiellement réduire certains délits, comme des vols de vélo, par exemple. Okay? Dans les documents que le Network Rail a donnés, on explique que les essais ont été approfondis avec cette reconnaissance-là faciale et d'objets pour justement mettre le doigt à la main puis le grappin à certains individus sur les voies, surveiller aussi, prédire l'affluence sur les les quais. Donc, une raison aussi là, de logistique en arrière de ça. Et d'identifier des comportements qu'on dit antisociaux. Courir, crier, faire du skate, fumer. Et donc, repérer les gens qui devaient peut-être enlever une bûche, comme on dit, dans leurs comportements sociaux, dans ces gares-là. Et l'opération s'est faite en toute transparence. En partie chez ceux qui l'utilisaient. Mais pour les passagers, les Kidam, qui finalement n'utilisaient pas, eux, cette technologie-là, mais bien sûr, tout simplement, les voies ferrées, ah là, par contre, on est un peu dans une opération de type Big Brother Watch, là. Il y a une organisation indépendante britannique qui a défendu les libertés civiles et les libertés à la vie privée des Kidam qui ont passé dans ces gares-là. Il y a un responsable à la recherche et aux enquêtes pour Big Brother Watch, justement, Jake Hurtful, qui a dit et qui a alerté les gens. On dit le déploiement puis la normalisation de ce genre de surveillance-là par l'intelligence artificielle dans des espaces publics, sans consultation, sans conversation et sans papier ou sans pancarte qui disent que vous êtes filmé et repéré et analysé, bien, c'est préoccupant. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Est-ce que vous trouvez ça préoccupant de votre côté? T'sais, vous savez, du côté des États-Unis, on a banni certains types de caméras de la Chine qu'on disait trop facile à craquer, trop facile pour peut-être l'entreprise chinoise en question à aller directement dans des milieux qui se disent sécurisés par les caméras, mais que finalement, quelqu'un peut aller court-circuiter le circuit, prendre l'information, puis tout simplement regarder dans la caméra à distance. Et puisque c'était pas assez sécuritaire, il y a plusieurs compagnies qui ont été bannies. On n'a plus le droit de les vendre aux États-Unis, on n'a plus le droit d'en avoir dans les entreprises pour ces raisons-là. Est-ce que vous, ce genre de situation-là, ça vous inquiète et ou ça vous importe? Pour Big Brother Watch, on dit que c'est préoccupant, c'est inquiétant, qu'on ne devrait même pas faire des essais sur le profil des passagers. Et il y a eu beaucoup de documents qui ont été révélés, comme quoi le système de vidéosurveillance, avec ces images de caméras-là qui ont été enregistrées, oui, peuvent produire une analyse statistique là, qui est liée à la tranche d'âge, au genre masculin, au genre féminin. On peut analyser les émotions, mais que c'est pas au point et que ces images-là captées quand des passagers franchissent une ligne virtuelle là, avec des portions d'accès puis une caméra, bien, ça peut être utilisé par la compagnie en question aussi, comme on expliquait avec les caméras chinoises, puis un logiciel aussi qui n'est pas 100% sécuritaire qui pourrait justement servir finalement à faire l'effet inverse à l'intérieur des gares. Donc, au lieu de protéger, mener à une situation peut-être inquiétante. Et ça fait en sorte qu'on se penche beaucoup sur la situation. Il y a beaucoup d'avocats aussi qui se penchent là-dessus. Mais technologie de vidéosurveillance qui se répand dans le monde entier. Là. C'est pas juste du côté des gares comme ça au Royaume-Uni. Du côté français, vous le savez, on a jasé puis on a jasé avec notre expert Patrick Mathieu. Il y a des systèmes similaires basés sur l'intelligence artificielle qui ont été achetés pour être utilisés pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il y en a aussi de ces systèmes-là qui a déjà été testé à l'occasion de concerts de Taylor Swift, donc à Paris. Puis c'est la Défense Arena qui s'était défendue justement de l'avoir utilisé du 9 au 12 mai en disant bien, qu'il y avait une grande foule, les gens étaient présents, étaient un petit peu festifs. On voulait que ça serve de cobaye pour les caméras qu'elle allait disposer pendant, justement, peut-être, oui, des salles de concert, des concerts et autres, mais aussi pendant les Jeux olympiques. Est-ce que ça vous importe, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est des trucs que vous dites « j'aimerais mieux pas » En même temps, si c'est sécurisé et qu'on n'a rien à se reprocher, puis finalement, ça nous permet d'être plus en sécurité, c'est dur un peu d'être contre. D'un autre côté, si c'est pas assez sécurisé, puis c'est pas des gens qui sont ferrés là-dedans, puis que ça peut justement être court-circuité, puis que nos informations seront dans des pays qui pourraient être nos ennemis technologiques à un moment ou à un autre. C'est un peu moins sécurisant, je pense, et puis que finalement, ça a l'effet inverse. Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent? Entre autres, quelqu'un qui dit « Moi, je ne veux rien de cette technologie-là, mais je pense qu'on est rendu trop loin dans le monde par rapport à ça et que même si on souhaite se protéger, il n'y a plus rien à faire de ce côté-ci. Alors, si notre gouvernement s'en sert pour nous protéger, nous, pourquoi pas rendu là? » C'est une réflexion comme une autre, effectivement, puis elle est très légitime. Là. C'est vrai que par rapport aux autres pays, on est tellement en retard qu'on se dit que s'il y avait de l'information qui avait à tomber entre leurs mains, fort probablement qu'ils ont déjà réussi à l'avoir. Est-ce que nous, après, si on en installe, on se protège ou on se nuit? Là est la question. mais ça dépend qui sont nos experts derrière la sécurité des circuits. C'est tout simplement ça. Puis jusqu'à maintenant, au Québec, on ne peut pas vraiment être très optimiste quand on se rend compte de tout ce qui se passe. Puis le genre d'implantation de nouveautés technologiques comme à la SAAQ qu'on a eu puis qu'on a vu que ça a floppé totalement, puis on est encore dans des déboires des... Mais j'allais dire un an plus tard, facilement un an plus tard. Électrique et le clan de la savate, c'est ce qui termine leur CV. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, on se retrouve avec Yannick Marceau. Marceau midi qui va commencer. Et en beauté, Marceau semble en feu. Thomas Gauthier qui sera là aussi. Plein d'enjeux d'actualité à discuter ensemble. Puis surtout, beaucoup de plaisir. Ouais, merci d'avoir été dans leur CV.